Ce matin, avant de terminer, j'ai oublié de vous dire quelque chose. C'est qu'à la fin de chaque conférence, en principe, j'invite les auditeurs à poser des questions sur le thème qui a été présenté. Alors, on va commencer cet après-midi sur les questions qui se posent chez vous au sujet de ce qui a été dit ce matin. Et tout à l'heure, à la fin de la réunion de cet après-midi, les questions vont se poser au sujet de ce que nous aurons vu cet après-midi. Avant les questions que vous allez poser, il n'est pas question de citer qui que ce soit, mon mari, ma femme, mon beau-père, ma belle-mère, et je ne sais qui, quoi encore. Hein. Voilà, vous posez une question, le sujet, le thème, et on va essayer d'y répondre. Je vous préviens, je ne suis pas une encyclopédie. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne suis peut-être pas capable de répondre à toutes vos questions. Certaines vont nécessiter peut-être d'être étudiées, et j'y répondrai demain ou après-demain, on verra cela. Alors, qui a selon ce que j'ai enseigné ce matin, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que des questions se posent? Est-ce que vous avez besoin d'autres explications? Oh, je vais essayer d'y répondre. Alors, que ce micro à la main. Et je vais venir vers vous. Vous pourrez dire votre question parce que je veux que tout le monde l'entende pour que tout le monde ait la réponse. Alors, la première question. Toujours, c'est très difficile, la première. Personne ne veut la poser. Mais quand ils sont partis, c'est quand c'est le soir, ils vous garderaient le prédicateur jusqu'à minuit. Alors à minuit, moi, il faut que je dorme. Voilà. Alors, à l'égard de ce qu'on a dit ce matin au culte, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a interpellé, qui vous a contrarié, qui vous a gêné, quelque chose dont vous aimeriez avoir une précision supplémentaire? Le premier courageux lève la main et je viens. Vas-y, mon frère. Bouge pas.
Alors, ce matin, vous avez parlé de l'amour Eros, Philéo et Agapé. Et en fait, il fallait se retrouver dans l'amour Agapé. Mais est-ce que à lui seul, il est complètement suffisant? Est-ce qu'il est complètement... on n'a pas besoin des deux autres du tout? Est-ce que, ou bien est-ce qu'il produit une conséquence des deux premiers qui sont Eros et Philéo?
Voilà. Alors, je précise que le mot amour que nous utilisons en français dans la Bible, en français, avec le mot amour, on aime tout. Hein? Vous avez remarqué, vous aimez la soupe, vous aimez le dessert, vous aimez la voiture, vous aimez ci, vous aimez ça, vous aimez votre mari, vous aimez votre femme et vous aimez également le Seigneur. Et vous comprenez que l'amour pour Dieu, c'est quelque chose. L'amour pour son conjoint, c'est un amour aussi très fort, qui est différent de celui qu'on adresse à Dieu. Et alors après, quand vous parlez de l'amour pour un objet, pour un plat, là vous comprenez très bien que c'est tout à fait différent. Le Kant dans la Bible, il est employé donc trois expressions, notre frère vient de les donner, Eros, Philao et Agapé. Eros a donné en français le mot érotique. Donc c'est un amour sensuel. Sensuel. Par exemple, en ce qui concerne le couple, il y a des gens qui aiment la personne pour la personne. Elle n'aime que des qualités humaines, c'est tout ce que ça se pose. C'est sensuel plutôt que très profond. Voilà pourquoi, pour vrai, cet amour-là, il est très fragile. Parce que le jour où la personne cesse de plaire, ça casse. L'amour philéo, c'est-à-dire philanthropique, qui veut dire rendre service, c'est un grand problème de rendre service aux gens. Il y a de l'usure qui se produit. Tandis que le mot agapé, c'est l'amour parfait. C'est celui dont on parlera l'autre soir quand on va aborder les questions de couple, les difficultés de couple, en prenant le texte de 1 Corinthiens, chapitre 13. Vous connaissez ce chapitre, j'en suis sûr. Ça convient? Merci. Il y a d'autres questions? J'ai vu une main qui se levait, mais c'est une petite fille qui rangeait ses cheveux. Comment? C'est une question qui n'a rien à voir ce matin? On n'en parle pas. Hein, parce que je me limite à ça, parce qu'autrement on aurait des questions de toutes sortes. Hein. Excuse-moi. Hein. Voilà. Notre question? Il n'y en a pas. Eh bien, on passe au sujet de cet après-midi, alors tout simplement. Voilà. Je gêne là? C'est bien. Nous allons aborder cet après-midi ce que... L'antenne est en place là-bas, s'il vous plaît. J'ai un problème là. Ça a fonctionné ce matin, il faut que ça fonctionne cet après-midi. Ah, c'est arrivé, ça arrive, voilà. Alors cet après-midi, voilà notre titre. Nous continuons parce que les enfants, autant que je sache, ça fait partie de la famille. Qu'est-ce que vous en pensez? Les enfants, est-ce que vous êtes contents d'avoir un papa et une maman? Oui, ils sont timides, mais vous, tout à l'heure ils vont s'y mettre, vous allez voir ça. Et oui, c'est beau la famille. Je rends grâce à Dieu, à mon épouse, nous avons eu deux fils. Et mon fils aîné, pour vous donner l'aperçu, depuis quelques mois, depuis le mois d'avril, il a 62 ans. Vous comprenez que moi aussi j'ai passé ma majorité depuis quelques temps. Voilà. Et ils nous ont donné deux fils. Et ces deux fils nous ont fait 7 petits-enfants, qui sont très gentils avec leur papy, je vous l'assure. Les fils aussi, ainsi que mes belles-filles, sont trop gentils avec moi. Alors mes deux fils, qui ont fait des fils, qui ont fait des enfants, les enfants ont fait des petits-enfants. Alors la famille commence à grandir. Le seul inconvénient pour moi, c'est que c'est très dispersé. J'en ai un en Allemagne, à Berlin, j'en ai une autre à Londres, j'en ai une autre à Lille, j'en ai une autre à Lyon, j'en ai une autre à Montpellier. C'est très facile de rassembler la couvée aujourd'hui. Mais, c'est formidable d'avoir des enfants. Et le Seigneur nous donne beaucoup de joie. Et j'espère que vous aussi, vous aurez beaucoup de joie avec vos enfants. Alors cet après-midi, en parlant du salut des enfants, le mot salut dans la Bible veut dire quoi? Il veut dire être pardonné de ses péchés, délivré de ses péchés, grâce à l'œuvre de Jésus à la croix du calvaire, qui a expié nos fautes, et qui, lorsqu'on place notre foi dans ce sacrifice, le Seigneur nous apporte le pardon des péchés, la purification des péchés, et une vie totalement nouvelle. Alors, le salut, c'est ça. Nos enfants, il faut qu'ils soient conduits à ce salut. C'est-à-dire qu'un jour, ils découvrent que Jésus est leur sauveur, qu'ils aiment ce Seigneur, qu'ils le reçoivent dans leur vie, et puis on verra tout à l'heure à quel âge, peut-être, on va voir pour les enfants se tourner vers Dieu. Alors, à l'introduction, nous dirons ceci. Nous ne parlons pas ici de l'éducation et de l'instruction des enfants. L'éducation, c'est vous les parents qui allez la faire, en enseignant les bonnes valeurs morales et spirituelles. L'instruction, c'est le travail de l'éducation nationale, dans les écoles, les collèges, les lycées et autres. Par contre, il s'agit donc, sachant que ces deux choses importantes ne sont pas négligées, nous abordons ici le salut des enfants, c'est-à-dire les amener à connaître Christ, à aimer Christ et à s'attacher à Christ. Le salut des enfants. Quelques fausses idées, parce qu'on a beaucoup de fausses idées, je ne sais pas si vous le savez, les gens ont des idées toutes faites, et surtout quand elles viennent du monde païen. Alors, c'est le programme, pardon, c'est le programme, je vous présente ici. Dans la première partie, ce sera l'école, les fausses idées. Être parent, ça s'apprend. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une belle école, cela. Ensuite, comment Dieu voit-il les enfants? Car Dieu les regarde du haut du ciel. Et je vous assure qu'il a l'œil sur chacun d'eux. Et il aimerait tellement leur faire beaucoup de bien. Ensuite, il y a un drame qu'il faudra éviter, on en parlera. Ensuite, votre mission, notre mission, nous les parents, les grands-parents, et oui, il y a les papas et la maman, mais les papis et les mamies, nous avons quelque chose à faire, une mission auprès des enfants. Et sachez-le, les enfants attendent beaucoup des papas et des mamans, et des papis et des mamies. Ensuite, oh là, quel terrible paragraphe, faut-il corriger les enfants? Je ne m'y attarde pas, j'y passe vite, on y parlera peut-être tout à l'heure plus en détail. Ensuite, je dis, il faut intercéder pour nos enfants. Voilà quelque chose d'important. Alors, maintenant, je voudrais voir si nous nous mettions à l'écoute de Dieu. D'abord, une parole de Dieu, oui, celle-ci. Il est écrit dans la Bible, pendant 7 fois c'est répété, 5 fois dans l'Ancien Testament, 2 fois dans le Nouveau, toutes les familles de la terre seront bénies. Qui que vous soyez, quelque famille que vous soyez des croyants, que vous soyez des non-croyants, Dieu a décidé de bénir toutes les familles. Quelqu'un va me dire, mais tu sais, moi je ne crois pas en Dieu. Bon, vous êtes libre de ne pas croire en Dieu, c'est votre affaire. Mais Dieu a décidé de vous bénir, ne l'oubliez jamais. Et si vous repartiez tout à l'heure en ne vous ayant pas, ne vous étant pas approché du Seigneur, avoir fait de Jésus votre Seigneur et votre Sauveur, je souhaite que vous vous souveniez toute votre vie que Dieu a décidé de vous bénir, vous et votre famille. Quelque chose d'important. Alors, si Dieu nous posait quelques questions, qu'est-ce que nous répondrions ? Est-ce que vous acceptez que Dieu nous pose quelques questions ? Vous ne répondez pas, vous êtes, rassurez-vous, je n'ai pas des pièges je n'ai pas de piège dans la poche, mais c'est assez intéressant. Voilà, si Dieu nous demandait ceci, voulons-nous que nos enfants soient sauvés ? Qu'est-ce que vous répondez ? Il n'y a pas beaucoup de tous, disons ici. Alors vous voulez au ciel tout seul, et vos enfants, qu'est-ce que vous en faites ? Vous les aimez ou vous ne les aimez pas ? Alors, voulons-nous que nos enfants soient sauvés ?
Oui.
Ah, ça va mieux. Ensuite, à quel âge voulez-vous qu'ils soient sauvés ? À quoi ? Oh là là, oh là là. Ah là, je ne savais pas cette affaire-là. Il faut que j'enrichisse. Je fais une découverte aujourd'hui. Alors, à quel âge vous voulez qu'ils soient sauvés, vos enfants ? Le plus tôt possible. C'est, je crois, la réponse la plus sage et la plus raisonnable. Là, des gens me disent, oui, plus tard, quand ils seront plus grands. On va en reparler tout à l'heure, d'ailleurs. Alors, et qu'est-ce que nous faisons pour que nos enfants soient sauvés ? Je sais, vous allez me dire, mais c'est le Seigneur qui les sauve. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Le salut est en Jésus-Christ. Mais nous avons quelque chose à faire pour qu'ils soient sauvés. Je remarque qu'il y a beaucoup de chaises vides dans cette église, comme dans beaucoup d'autres églises. Il y a beaucoup de chaises vides. Non seulement parce que les parents sont occupés ailleurs, mais certainement qu'il y a des enfants qui ont grandi sur ces chaises. Et devenus plus grands, ils ne sont plus dans l'église, dans les églises. Pourquoi ? Parce que peut-être certains parents n'ont pas fait ce qui était nécessaire et indispensable. Car en effet, si c'est l'œuvre de Jésus qui sauve, nous avons quelque chose à faire. Il y a des enfants qui ne sont pas sauvés, ou qui sont des grands aujourd'hui, parce qu'ils ont vu, ils ont entendu, dans le cadre familial, des choses qu'ils n'auraient dû ni voir, ni entendre. Voilà quelques fausses idées. En ce qui concerne la religion, il existe des fausses conceptions qui doivent disparaître. Voilà. Elles existent dans le monde et elles sont parfois dans l'esprit, dans la tête de certains parents. Voici ces quelques-unes. Il y en a beaucoup d'autres, mais celles-ci. On doit laisser les enfants libres. Ils sont trop jeunes, ils choisiront plus tard. Qu'est-ce que vous en pensez ? Voilà. Il y a des gens qui pensent cela. Bon, je veux bien, c'est votre affaire. Mais vous savez, dites-moi, vous ne trouvez pas qu'ils sont trop jeunes pour aller à l'école ? Vous ne voulez pas qu'ils choisissent plus tard si vous y allez ou pas y aller ? C'est le rôle des pasteurs et des moniteurs. Et on compte sur l'église et l'école du dimanche. Et moi, je ne suis pas capable, disent les parents. On s'arrête sur là. C'est le rôle des pasteurs. Quand j'étais responsable d'église, je connaissais mon rôle auprès des enfants. Je pense que votre pasteur et son épouse connaissent leur rôle auprès des enfants. Les moniteurs, les monitrices qui sont là connaissent également leur rôle. Je suis partisan. Mais écoutez-moi bien. Comptez sur l'église. L'église a cette mission, elle doit l'accomplir. Si j'ai compris, quand j'ai vu tous les enfants partir ce matin, ils allaient à l'école du dimanche. C'est le travail de l'école du dimanche. Mais je vous pose une question, je vous dis une chose. Savez-vous que dans une année, il y a, écoutez bien, 8760 heures approximatives. En principe, l'école du dimanche fonctionne avec le programme scolaire. C'est comme ça ici aussi ? Hélas, il fut un temps où tous les dimanches de l'année, il y avait école du dimanche. Mais c'est fini. Alors, ça fait en principe une moyenne de 32 dimanches par an. Ça dure combien ? 2 heures l'école du dimanche chez vous aussi ? À peu près. Donc, avec 31 dimanches à 2 heures, ça fait 62 heures. À 62 heures, les enfants vont là-bas, l'école du dimanche, entendre parler de Jésus. Et vous, les parents, vous attendez qu'ils vous reviennent, nés de nouveau, convertis à Jésus-Christ, complètement transformés. Et vous oubliez que pendant 8700 heures, les enfants étaient sous votre responsabilité. Alors, si au bout de 62 heures d'école du dimanche, ils ne sont pas devenus les anges que vous attendiez, si l'école du dimanche n'a pas pu faire ce miracle en 62 heures dans l'année, comment expliquez-vous que vous, avec 6000, pardon, je reprends mon chiffre, voilà, 8700 heures d'avoir les enfants sous votre main, vous n'avez pas pu y arriver? C'est vrai que le temps des miracles n'est pas passé, et qu'en 62 heures, ils pourraient tous être transformés, mais nous en sommes là. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, s'attendre à l'église, compter sur le pasteur et son épouse, compter sur l'école du dimanche, ma foi, pourquoi pas? Mais sachez que la plus grande responsabilité, c'est celle des parents. Alors, je dis, mais moi, je ne suis pas capable. Attendez. Le Seigneur ne vous demande pas d'être des professeurs de religion. C'est écrit nulle part, cette affaire-là. Par contre, le Seigneur dit, vous serez mes témoins. Et votre rôle, c'est d'être témoin de Jésus-Christ auprès des enfants. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que c'était clair? Excusez. Alors, nous allons un petit peu plus loin. Et je dis qu'être parent, ça s'apprend. Il y avait une maman dans notre église à Toulouse, quand j'étais jeune converti, Mme Berton. C'est la maman du pasteur Claude Berton. Je ne sais pas si vous le connaissez, si vous avez entendu parler. Autant que je me souviens, je crois qu'ils ont eu 7 garçons. Alors elle me disait, Charles, vous voyez, j'ai sept gars, mon ami, ils sont tous différents. Et elle a découvert que ce qui marchait avec l'un ne marchait pas aussi bien avec l'autre, etc. Les cours étaient spéciaux, chaque cours était spécial en fonction de l'enfant. Alors ça s'apprend d'être parent. Afin d'être des parents efficaces, il faut prendre en compte les conseils ci-après. Alors, je vous demande la permission. Est-ce que vous acceptez que je vous donne quelques conseils? Oui? On peut y aller, hein? Alors, je dis ceci. Pour que les parents soient efficaces auprès des enfants, il faut d'abord une vie chrétienne avec des valeurs. C'est-à-dire, ce couple, papa et maman, il faut qu'ils aient une vie chrétienne avec des valeurs. Les valeurs que nous apporte l'Évangile. Ces valeurs, elles sont morales, elles sont spirituelles. Il faut que des enfants découvrent que leurs parents sont de vrais croyants. Il faut une bonne harmonie dans le couple. Vous savez, dans le couple, il y a un homme et une femme. Les sensibilités, les conceptions, les goûts ne sont pas les mêmes. Et ça apporte beaucoup de problèmes. Mais avec la grâce de Dieu, ça tient le coup. Ça peut marcher un couple, vous le comprenez bien quand même. Ensuite, il faut créer dans le cœur des enfants la crainte de Dieu, non pas la peur. La crainte de Dieu. Quand j'étais enfant, personne n'allait à l'église chez nous. Nous étions une famille athée. Et la maman, ma grand-mère maternelle, vivait chez nous. Alors mes parents ne me parlaient jamais de religion, il n'était pas question de religion, mais ma grand-mère m'en parlait. Alors, je ne vous le répéterai pas, quand j'étais plus jeune, j'étais turbulent. J'ai eu une enfance et une jeunesse un petit peu mouvementée. Et naturellement, quand j'étais petit, j'étais puni. Alors ma grand-mère venait le regarder, si personne ne la voyait, elle s'approchait de moi avec son doigt très long, me dit « tu vois, vilain, tu as été puni ». Le bon Dieu t'a puni. Et pendant je ne sais combien de temps, j'ai entendu cette terrible parole, le bon Dieu t'a puni. Et j'étais fatigué, moi, de ce bon Dieu qui passait son temps à me punir. Surtout que quand je faisais des choses bien, parce que même les plus turbulents ont fait des choses bien, il faut que vous le sachiez, elle n'est jamais venue me dire, le bon Dieu t'a béni. Alors ça passait pas. Heureusement qu'un jour, j'ai entendu parler de ce Dieu qui se plaît à nous bénir. Alléluia. Ensuite, il faut comprendre les enfants. Qu'est-ce que ça pose comme question, les gamins? Vous avez remarqué? Et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi? Je sais qu'il y a une réponse toute faite. Parce que. Je vous laisse écrire la suite de la réponse. Et oui, ça demande des questions. Ça découvre, il voit, il entend, il veut comprendre. Alors, il faut apprendre à répondre. C'est pas facile. Ensuite, il faut les voir avancer vers l'âge adulte. Ça grandit, les gamins. Sachez-le, et ça grandit plus vite que ce que vous pensez. Quand je pense, moi j'ai un fils de 62 ans passé, et qu'il est plus grand que moi, il est plus lourd que moi, et que j'arrive encore à lui dire, et mon petit, et j'ai bonne mine avec ça. Et oui, regardez ensuite. Ah mais oui, c'était terminé ce coup-là. Voilà. Alors il y a un sujet de réflexion, c'est écrit d'un auteur inconnu, mais depuis, j'ai le nom de cet auteur. Je vais essayer de vous le donner parce que ça en vaut vraiment, vraiment la peine. Elle s'appelle Dorothy Lavenholt. Elle a écrit quelque chose de très long. Je n'ai rapporté que quelques pensées les plus essentielles. Mais vous pourrez trouver cela sur Internet si ça vous intéresse. Alors, elle a dit ceci. Si l'enfant vit, la manière de l'enfant de vivre, le cadre de vie dans lequel il existe. Et regardez ce qu'il est dit. Si l'enfant vit dans la critique, il apprend à blâmer. Et oui, il y a des maisons où on a l'art de la critique. On critique le papa, on critique la maman, on critique les papis, on critique les mamies, on critique les voisins, on critique les professeurs, on critique le pasteur et sa femme, on critique les chrétiens d'église. Il y a des maisons où ils ont une capacité de cela. Alors qu'est-ce qu'il fait dans un... Eh bien lui, il apprend à blâmer, bien entendu, vous le comprenez bien. Si l'enfant vit dans l'animosité, il apprend à se battre. Il y a des maisons où il y a de la tension. Il y a le voltage est toujours au maximum là-dedans. Les paroles sont vives, les portes claquent, les réflexions sont assez virulentes. Si l'enfant vit dans la moquerie, il apprend à se renfermer. C'est vrai que nos enfants, parfois, ils commettent des trucs qui nous donnent envie de rire. Et c'est pas facile. Mais rire, c'est une chose. Se moquer, en est une autre. C'est le ridiculiser. Et ça, c'est quelque chose de mauvais, parce que ça l'apprend à se renfermer. Si l'enfant vit dans la vulgarité, il devient grossier. La langue française est une très belle langue, dit-on. Mais il y a un problème, c'est qu'on y a ajouté des mots particuliers. Et comme je dis aux gens, quand vous vous tapez sur les doigts avec le marteau, eh bien, ne dites pas autre chose. Dites « aïe » si vous voulez, mais ne dites pas autre chose. Je ne sais pas si vous pensez ce que je veux dire. Quand on faisait le camp d'ado, où votre pasteur était un adolescent au milieu de nous, on avait dit, tu te rappelles, on appelait ça les mots folkloriques. Hein. Et alors, je fais, il a dit un mot folklorique. Ça, vous savez ça. Et les gamins, ils apprennent des mots. Ils apprennent des mots. La chose surprenante, c'est quand le pasteur est là, et que le gamin dit quelque chose, il y a le papa qui dit, bon, je produis longtemps cela. Alors je veux dire, ces papas-là, enregistrez un petit peu vos conversations et vous trouverez qui c'est qui dit les mots. Je ne sais pas si vous suivez mon regard. Ensuite, si l'enfant vit dans la honte, tu n'as pas honte d'avoir fait, tu n'as pas honte d'être allé, tu n'as pas honte de... Il se sent coupable. Et ça le détruit, ça le démolit. Alors on pourrait continuer longtemps, mais regardez. Il y a quand même quelque chose de plus positif. Par contre, si l'enfant vit, il vit dans la tolérance. Eh bien oui, les gens auraient besoin de changer, mais faut être tolérant avec eux. C'est pas parce que vous les critiquez que vous les changerez, bien loin s'en faut, mais si vous êtes tolérant, l'enfant apprend à être patient. Ensuite, si l'enfant vit dans l'encouragement, il apprend à avoir confiance. S'il arrive à la fin du mois avec une note, un petit point ou demi-point, au lieu de dire, ah ben, tu n'as fait que ça, si vous lui dites, tu vois qu'il y a un progrès, tu as réussi. Allez, vas-y, continue, tu vas aller davantage plus loin. Si l'enfant vit dans la louange, il apprend à apprécier les personnes. Et oui, si le papa, il dit du bien de son épouse, si la maman dit du bien de son mari, automatiquement, tu vois, maman, elle a fait, papa, il a fait, ben, l'enfant, il découvre que les parents sont formidables. Et c'est vrai avec toutes sortes de personnes. La louange, apprécier les gens. Ensuite, si l'enfant vit dans l'équité, la droiture, l'honnêteté, il apprend à être juste, il apprend à être loyal, il apprend à être fidèle. Eh oui, dans une maison où il y a de l'iniquité, ça ne marche pas. Et enfin, si l'enfant apprend l'acceptation et l'amitié, s'il voit que vous acceptez votre entourage et que vous avez de l'amitié pour lui, il apprend la courtoisie, il apprend la politesse, il apprend l'estime, etc. Donc vous avez découvert que selon le climat familial dans lequel l'enfant vit, il va se développer dans une dimension ou dans une autre. Alors, on va arriver maintenant à quelque chose d'intéressant. Comment Dieu voit-il les enfants ? Est-ce qu'il les voit comme nous ? Voilà une grande question. La Bible dit ceci. Proverbe 22, 25, la folie est attachée au cœur de l'enfant. Les mamans, ne vous affolez pas, c'est pas de la démence. La folie n'est pas de la démence, c'est quoi? Mais c'est que l'enfant, il connaît pas le danger. Il n'a pas la notion des choses. Il ne sait pas si ça c'est mauvais, si ça c'est ceci ou cela. Pas du tout. Vous comprenez? L'enfant, il est inconscient des dangers, des choses. Quand il devient adolescent, il a grandi. Et 2 Timothée 3, 1 et 2 nous dit ceci: dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles car les hommes seront égoïstes, rebelles à leurs parents. Et vous savez, ça arrive vite que les enfants deviennent rebelles aux parents. Certains, ils sont à peine hauts comme ça, comme 3 pommes, et croyez-moi, déjà, ils se rebellent d'une façon particulière. Alors, bien sûr, on se pose des questions, d'où ça vient? Alors, nous apprenons ceci, 1 Pierre, chapitre 1, verset 18, la vaine manière de vivre que vous avez héritée de vos pères. Et là, j'entends les mamans jubiler. Tu vois, ton fils, ta fille, c'est toi qui es responsable. Hein, c'est toi qui... Le rapport de la mauvaise... Mais mes amis, pour faire un bébé, j'ai appris qu'il faut être 2. Et si on est 2, vous comprenez très bien que l'enfant, il récupère des gènes du papa et de la maman, bien entendu. Alors, une bonne nouvelle, car il y a quand même de bonnes nouvelles. 1 Timothée 2, versets 3 et 4, il est écrit, Dieu notre Sauveur veut que tous les hommes soient sauvés. Ici, le terme homme retrouve la déclaration qu'il y a dans la Genèse, chapitre 5, verset 1er, lorsque Dieu a créé l'homme et les femmes, et la femme, il leur donna le nom d'homme. Il est question de l'humanité. Donc, quand l'Écriture dit Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, il est question de tous les garçons, de toutes les filles, il est question de tous les hommes et de toutes les femmes. D'accord? Regardez ensuite, dans Actes 16, 31, il est dit à un homme qui posait la question, tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est le désir de Dieu. Non seulement de vous réunir tous les jours autour de la même table, mais de vous amener un jour tous ensemble, là-haut dans le ciel, auprès du Seigneur. Alors, un appel à la logique. On parle de les gens soient sauvés, mais un appel à la logique. Il est écrit dans les Romains, au chapitre 10, verset 14, en parlant de ceux qui ne sont pas encore chrétiens, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Pour invoquer Dieu, il faut croire, il faut avoir la foi. Et l'Écriture nous dit, mais comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment nos enfants invoqueront-ils Dieu s'ils ne croient pas? La suite du verset est intéressante. Il est dit, comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Car en effet, c'est d'entendre parler de Jésus qui nous amène à la foi en lui. Et l'Écriture d'ajouter encore, comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Alors je sais, je vous entends, tu vois pasteur, c'est toi qui dois prêcher, c'est toi qui dois mener mes enfants au salut, c'est toi. Mais qu'est-ce que veut dire le mot prêcher? Savez-vous ce que ça veut dire? Annoncer la bonne nouvelle. Est-ce que vous êtes intéressé de pouvoir dire des bonnes nouvelles? Vous préférez donner des mauvaises nouvelles? Ça vous aime apporter des mauvaises nouvelles? Apporter un deuil? Hein? Apporter à une personne, tu sais, ton fils est en prison? Tu sais que ta fille se prostitue? C'est ça que vous voulez? Non. Alors regardez. Comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? C'est-à-dire qui leur annonce la bonne nouvelle. Et parents, nous avons quelque chose à faire. Vous vous interrogez, comment ils vont invoquer le Seigneur? Comment ils vont croire? Comment croiront-ils s'ils n'entendent pas parler? Donc il faut leur parler. Comment leur parler? Il faut des gens qui veulent annoncer des bonnes nouvelles. Et dans les 100 jours où je parle, même là, sans arrêter la réunion, décidez une chose. Seigneur, donne-moi d'annoncer la bonne nouvelle à mon fils. Donne-moi d'annoncer la bonne nouvelle à ma petite fille. Donne-moi d'annoncer cette parole. Et vous verrez que le Seigneur vous bénira les enfants. Voilà ce qu'il y a. Alors un drame à éviter. Un drame qui a, abîmé toute une génération chez les Hébreux. Regardez ceci. Dans les Juges, chapitre 2, verset 10, Les Juifs sont sortis des pays d'Égypte, ils ont été libérés d'une manière miraculeuse. Ils ont conquis, ils ont erré dans le désert, puis ils ont commencé à s'établir dans le pays de Canaan. Mais, un jour, il s'est élevé une génération, 200, 150, 200 ans après, il s'est élevé et une génération qui ne connaissait pas l'Éternel, ni ce qu'il avait fait. Jésus a dit une parole intéressante. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le Dieu vivant et vrai. Et nous apprenons ici que donc une génération qui descendait de croyants, de gens, d'ancêtres qui avaient vécu des temps formidables avec le Seigneur, voir la puissance de Dieu, ils ne connaissaient pas l'Éternel, et ni même ce qu'il avait fait, ils ne savaient même pas ce que Dieu avait fait. Et voyez-vous, il y a des enfants aujourd'hui dans certaines maisons, ils ne connaissent pas le Seigneur. Ils ne savent même pas ce qu'il a fait. Et c'est ça qui est le problème. Alors les conséquences, mais les conséquences sont terribles. Ils firent alors ce qu'il déplaît à Dieu. Mes amis, si vos enfants, vous les voyez faire ce qui déplaît à Dieu, posez-vous des questions. Connaissent-ils Dieu? Est-ce qu'ils savent ce que Dieu peut faire, ce que Dieu a fait qu'il peut faire? Et l'Écriture de dire, et ils abandonnèrent l'Éternel. Je le répète, je vous l'ai dit tout à l'heure, il manque dans nos églises quantité d'enfants qui ont grandi, qui sont devenus des ados, qui sont devenus des adultes, ils ne sont plus là. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissaient pas l'Éternel, ni ce qu'il avait fait. Ils ont fait ce qui déplaît à Dieu, et ils ont fini par abandonner le Seigneur. C'est quelque chose de terrible. Croyez-moi, c'est terrible. Alors, un texte de base, le psaume 78. Quand j'étais pasteur d'église, c'était ma première prédication le premier dimanche à la rentrée. Je faisais cette prédication sur ce texte, et je l'adressais à tous les parents, et en particulier aux moniteurs et monitrices. Tous les parents, suivez bien cette réflexion, et vous, moniteurs et monitrices, suivez bien ce que nous allons voir ensemble. Voici ce que dit le texte. C'est Dieu qui parle, et il dit, mon peuple, psaume 78, verset 1, mon peuple, écoute mes instructions, prête oreille aux paroles de ma bouche. Le devoir de tout croyant, de tout parent, de tout grand-parent, de tout moniteur, de toute monitrice, de nous les pasteurs, c'est de nous mettre à écouter les instructions de Dieu, à les passer, les repasser dans notre cœur, de prêter l'oreille à ce que Dieu a dit. Voilà pourquoi, je mets les textes bibliques, voyez, en blanc, pour que vous sachiez que ça vient de la parole de Dieu. Et Dieu dit ceci, j'ouvre la bouche par des sentences, je publie la sagesse des temps anciens. Les sentences, qu'est-ce que c'est? C'est des règles de vie. C'est des règles de vie. Et le Seigneur nous donne tout un tas de règles de vie. Voilà pourquoi d'un côté il dit, tu fais, de l'autre côté il dit, ne fais pas. Et c'est ça. Et il ajoute ceci, je publie la sagesse, non pas des temps nouveaux de 2015, mais la sagesse des temps anciens. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec ces vieilleries des temps anciens? Mais pasteur, ça a évolué aujourd'hui. Eh bien, Dieu nous dit qu'il publie la sagesse des temps anciens. Alors, vous verrez quand même, ça vaut la peine. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté. Voilà, nous devons arriver à entendre la parole de Dieu, à savoir la parole de Dieu, et cette parole qui a été apportée par les pères, par les anciens, et qui est parvenue jusqu'à nous. Le texte continue, psaume 78. Au verset 4, il est dit, nous dirons à la génération future les louanges qu'il a opéré. Il faut dire aux enfants toutes les louanges du Seigneur, les œuvres glorieuses qu'il a faites. Il ne faut pas hésiter. Notre fils Bernard était tout gamin, il a eu besoin d'une prothèse. Alors, sa maman l'avait conduit chez un prothésiste, et là, comme il n'était pas grand, il l'a mis sur une table. Et là, dans cette pièce, il y avait plusieurs ustensiles, et entre autres, dans un coin, il y avait un squelette humain, comme ça. Alors, pendant que le monsieur prenait les dimensions, je ne sais pas ce qu'il faisait, tout d'un coup, il dit, maman, regarde, Goliath! Et il lui montre ce squelette. Alors, l'homme, il a arrêté, il lui a dit, tu connais Goliath? Ben oui, c'est David qui l'a tué avec sa fronde, et il était fier. Eh oui, chers amis, mais raconter ces belles histoires, des miracles de Dieu, des choses glorieuses que des hommes ont accomplies, allons donc. Ensuite, il a établi un témoignage en Jacob. Et il a mis une loi en Israël. Et il a ordonné de l'enseigner à leurs enfants. Témoignage, loi, c'est la même chose. Ça part de la même chose. Et Dieu, en effet, a mis une loi. Il a mis des enseignements. Et il a ordonné aux parents de l'enseigner. C'est un ordre, mes amis, que nous avons de l'enseigner aux enfants. Regardez encore. Pour qu'elle soit connue de la génération future et que, devenus grands, ils en parlent à leurs enfants. Dans quelque temps, vous ne serez même plus des grands-parents ni des arrière-grands-parents, mais vous serez peut-être la génération qui remonte, vos enfants dans 3 ou 4 générations. Qu'est-ce qu'ils vont savoir? Est-ce qu'ils s'en souviendront et qu'ils en parlent à leurs enfants? Voilà le but, voilà un peu le but. Alors le texte de base, toujours, et verset 7, il est écrit, le but, c'est qu'afin qu'ils mettent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oublient pas les œuvres de Dieu et qu'ils observent ses commandements. Voilà le but que nous avons. C'est un magnifique programme, ce me semble. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai? Voilà. Alors, nous allons maintenant... Le commandement de la loi, c'est ça que je cherchais. Exact. Parce que quel est ce commandement de la loi? Elle est dans le Deutéronome, au chapitre 6, versets 5 et 7. Vous allez me dire, mais ça c'est la loi, on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. Mais sous la grâce, il me semble que c'est encore valable. Il est écrit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Croyez-vous que cette loi soit encore valable? Ensuite, il est dit, les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans... Ça s'adresse aux parents, ça s'adresse aux adultes, cette affaire-là. Ensuite, il est dit, tu les inculqueras à tes enfants, tu leur en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en vacances, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Vous êtes d'accord? Ah bon, c'est bien. Alors, regardez bien. Il faut inculquer. Inculquer veut dire faire rentrer dans l'esprit à force de répétition. Et l'écriture veut dire ceci, tu en parles quand tu seras et quand tu iras en voyage. Vous allez partir en vacances dans quelques semaines. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Comme me disait un jour un chrétien, il me disait qu'il rentrait, il rentrait dans l'orgie, où est-ce que vous êtes allé à tel endroit? À quel moment vous alliez au culte? Oh, moi je débranche, il disait. Vous riez? Mais c'est une désolation, cette affaire-là. Mes amis, on a besoin de Dieu tous les jours. Et vous voyez, il faut saisir mille et une occasions pour parler du Seigneur à nos enfants. Hop là, c'est trop tard. Alors, maintenant, les grands, vous allez rester entre vous. Et les enfants, où sont-ils les enfants? Allez, venez me voir. Venez me... Et les autres, vous n'écoutez pas. J'ai quelque chose à voir avec eux. Et je défends aux adultes de... d'écouter ce qu'on va dire. Venez, venez par là, vous allez voir. Attends, je laisse le micro ici, parce qu'autrement, ils sont pas loin. Allez, tous les enfants, venez là, venez voir. Je suis fatigué, je suis fatigué.
bavarder entre vous. Vous avez été sages, les grands. Ah bon, d'accord.
Ah, vous êtes curieux. Vous allez bien savoir ce qu'on a dit avec les petits, hein. Vous ne le saurez pas. Vous ne le saurez pas. Parce que c'est des secrets entre nous. Alors, il y a une question qui se pose. Faut-il corriger les enfants? Et les enfants, est-ce que je peux dire la réponse que vous m'avez donnée quand j'ai posé la question? Qu'est-ce qu'ils ont dit, les enfants? Est-ce qu'il faut corriger les enfants? Les enfants, répondez. Vous avez entendu? Ils sont quand même raisonnables, les gamins. Qu'est-ce que vous en pensez? Et si vous savez, quand j'aurais dit, mais pourquoi? C'était des réponses magnifiques. Vous avez des enfants en or, mes amis. Que Dieu soit béni. Alléluia! J'aime beaucoup, vous voyez, dans cette série, dans cette leçon, j'aime beaucoup m'asseoir dans un coin de la salle et de parler avec les enfants. Si vous saviez comme c'est beau ce moment-là, ils sont sincères, ils sont vrais. Je pense que dans l'équipe, parfois, je pense cela, je ne les connais pas, mais parfois dans certaines équipes, il y a de ces turbulents qui viennent, pas possible. Mais ils sont admirables et adorables, et c'est eux qui ont les réponses les plus sensées, que Dieu soit béni. Alors, faut-il corriger les enfants? Voilà une grande question. Et certainement aussi, il faudra vous intéresser à savoir comment faire. C'est ce que nous allons essayer de voir. Alors, on va faire d'abord un peu de vocabulaire. Il y a des mots là, vous voyez, châtier, corriger, correction, verge. Ces mots sont dans la Bible. Alors, châtier veut dire quoi? Veut dire punir sévèrement une faute en vue de la corriger. Corriger veut dire rectifier une erreur, faire disparaître les défauts, infliger une punition et rendre meilleur et redresser. Ensuite, il est dit la correction. Ah, là, ça, c'est plus loin. C'est un châtiment corporel. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a une loi qui est sortie, une loi terrible, qui risque d'amener des parents à avoir des complications. Je crois qu'il était nécessaire que cette loi sorte, parce qu'il y a des parents qui, pour corriger, massacrent les enfants. Il les humilie, il les blesse, non seulement moralement, mais physiquement. Ça fait des dégâts, des corrections. Attention, il y a un verre. Ensuite, la verge. La verge, ce n'est pas le bâton, c'est une verge. Autrefois, dans l'Antiquité, il y avait deux choses, le bâton ou la verge. Certaines punitions d'adultes, c'était avec des bâtons. D'autres, c'est la verge. Or, la verge, c'est quoi? C'est une baguette mince et flexible qui était utilisé autrefois. Alors, c'est pas très gros, c'est mince, mais quand même, ça pique quand ça passe sur les mollets. Ça fait mal. Voilà ce que c'est. Alors, qu'est-ce que dit la Bible à ce sujet-là? Car il nous faut nous en tenir à la parole de Dieu. Alors, Proverbe 19, verset 18, il est écrit « Châtie ton fils, car il y a encore de l'espérance, mais ne désire pas le faire mourir. » Dans les années de mon ministère, j'ai entendu deux ou trois fois des personnes dire « Ah, quand je vois ce que fait mon fils, ma fille, je préférerais qu'il soit mort. » Je lui ai dit « Mais arrêtez, qu'est-ce que c'est cette affaire-là? C'est quelque chose d'odieux. Ne désire pas le faire mourir. Si turbulent soit-il, il y a quelque chose à faire. Il y a encore de l'espérance, nous dit la Bible. Alléluia. Et si vous, parents, vous désolez pour un enfant, une petite fille, un petit garçon, un arrière-petit-fils, une arrière-petite-fille qui ont pris un chemin terrible, je vous dis, mais il y a de l'espérance avec la grâce de Dieu. Mais voilà, il faut châtier, donc il faut punir. Proverbe 23, 3 à 14, il est écrit, n'épargne pas la correction à l'enfant. Tu délivreras sa vie du séjour des morts. Je suis sûr qu'il n'y en a pas un parmi vous qui va envoyer ses enfants à l'enfer. Il veut que tout soit sauvé. Et l'Écriture dit, n'épargne pas la correction. La correction, c'est quoi? C'est constater un défaut et il faut l'effacer. Il faut l'enlever. C'est ça la correction. Et nous verrons un petit peu plus en détail comment faire. Tu délivreras sa vie, n'épargne pas. Il y a des gosses qui ont mal tourné. Vous savez, dans la Bible, il parlait d'un garçon qui avait très mal tourné, et il est écrit, la référence méchante maintenant, son père de toute sa vie ne lui avait fait aucun reproche. Et oui, c'est ça le résultat. C'est ça le résultat. Ensuite, dans 29, 15, il est écrit, la verge et la correction donnent la sagesse. mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. On a dit donc que la verge, la correction, c'est un châtiment physique. Je dis souvent que quand les enfants ne savent pas entendre par ici, ils entendent beaucoup mieux par là. Je ne sais pas si vous le savez. Et oui, c'est ça que nous devons savoir. Voilà donc, il faut faire quelque chose. Alors, le commandement du Nouveau Testament, car c'était dans l'Ancien, là. Mais ici, au Nouveau Testament, il est écrit ici, Éphésiens 6:4. Père, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Ce verset est très important. D'abord, de ne pas irriter, et on le retrouve dans un autre verset, des Colossiens, « Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. » Alors donc, nous apprenons ici que les papas, on aurait presque le don d'irriter nos enfants, de les agacer. Pourquoi ? J'ai essayé d'y réfléchir, c'est pas facile, parce que je me sens concerné, j'ai été papa, et je suis grand-père maintenant. Alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est que souvent, c'est la maman qui nous rapporte les difficultés, les problèmes du gamin. Et le père, il est là, et lui, il est plus direct. Il finit par être agaçable. Mais les enfants, ils disent, mais papa, tu me l'as déjà dit, tu me l'as déjà dit. Et allez, on est là, on veut que... C'est vrai qu'il faut faire entrer les choses dans l'esprit, mais c'est ça. Par contre, il est dit ceci, élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Élever ici ne veut pas dire les élever en orgueil, comme me disait quelqu'un, oui, je ne veux pas me faire des orgueilleux. Mais non, tu n'en feras pas des orgueilleux, d'abord ils savent faire ça tout seuls, ils n'ont pas besoin de vous. Par contre, élever veut dire ici cultiver. Cultiver, comme si cultiver le jardin. Et les corrigeant, c'est-à-dire leur montrer que ça c'est mauvais, et les instruisant, et c'est ça qui est beau, selon le Seigneur. Il faut qu'ils se rendent compte que les enfants, le bon chemin qu'on leur trace, c'est celui qui est voulu par le Seigneur. On leur dit de faire ceci parce que c'est le Seigneur qui le dit. D'où pour vous parents de connaître la parole de Dieu. De manière que s'ils ne vous écoutent pas, ils écouteront quand même la parole de Dieu. Et ensuite, vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Et oui, nous les adultes, ça nous arrive d'être découragés. Ça fait mal quand on est découragé. Et nous sommes des adultes. Nous avons une certaine expérience de la vie. Mais un bambin n'a pas d'expérience. S'il n'arrive pas à être encouragé par ses parents, où va-t-il trouver son courage? Donc, vous voyez, il y a du travail à faire. Alors, on voit qu'il y a quand même de l'avenir pour nos gamins. Moi, je bénis Dieu pour ça. Regardez, il faut intercéder pour nos enfants. Qu'est-ce que c'est que l'intercesseur? Parce que les gens disent, on prie. Attends, prier, c'est une affaire. Intercéder, ça n'est une autre. Prier, c'est d'apporter une prière, une demande. L'intercession... c'est un intermédiaire. L'intercesseur, c'est un intermédiaire. Et là, il nous faut intercéder pour nos enfants auprès du Seigneur. Afin que vos enfants se tournent vers Dieu, il faut intercéder en leur faveur et c'est dire intervenir en leur faveur. Notre intermédiaire, c'est Jésus, notre médiateur. Et nous sommes, nous les parents les plus proches, nous intercédons pour eux auprès du Seigneur. Nous prions pour eux, nous demandons à Dieu de leur faire grâce. Si je suis ici aujourd'hui, voyez-vous, c'est parce qu'il y a bien longtemps, un jour, quelqu'un sur une croix prononçait cette parole terrible, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Et si vous, vous êtes ici aussi, c'est parce que Jésus a prononcé cette parole, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Et des intercesseurs, il y en a eu dans la Bible, qui sont remarquables. Regardez des exemples. D'abord, Moïse pour le peuple. Un jour, Dieu a dit à Moïse, « Allez, sors de ce peuple, je vais le détruire. » Et je ferai d'autres... Et Moïse a intercédé, « Seigneur, je t'en supplie, si tu le détruis, efface-moi du livre de vie. » Je ne sais pas si j'oserai faire cette prière. Et vous, regardez. Ensuite, il y a eu Abraham pour Lot. Abraham vient d'apprendre que la ville de Sodome et de Gomorrhe va être détruite. C'est là que vit Lot. Et il se met à intercéder auprès de Dieu. S'il y a tant de justes, et là, il intercède. Et puis Dieu envoie des anges pour faire sortir Lot de la ville et il est sauvé. Ensuite, il y avait Job qui intercédait pour ses enfants. Et oui, c'était une famille, la famille de Job. Ils étaient nombreux, garçons et filles. Et ils faisaient des repas de famille. Vous allez me dire, mais quel péché il y a? Ce n'est pas un péché de faire un repas de famille. Mais vous savez, ça, c'était un festin qui durait plusieurs jours. Et vous savez, quand on mange, on boit pendant plusieurs jours, qu'est-ce qui se passe? Des fois, on sort des limites du chemin voulu. On touche. Et alors, Job, quand ils avaient fini... C'est remarquable, Job n'allait jamais à leur fête. C'est curieux, mais c'était comme ça. Alors, quand ils avaient fini leur festin, Job faisait venir ses enfants. Il offrait des sacrifices pour eux, parce qu'il disait, mon Dieu, ils ont peut-être péché contre l'Éternel. Et il intercédait. Il y a ensuite Jésus, pour nous tous, qu'il a intercédé. Ésaïe 52, 12, Luc 23, 4, 34, Hébreux 7, 25. Jésus a intercédé pour nous. Vous aussi, intercédez pour vos enfants. Dites, Seigneur, je ne sais pas où il est, mon fils, je ne sais pas où elle est, ma fille. Mais Seigneur, je t'en supplie. Pardonne-lui, fais-lui grâce, place-toi sur son chemin, ouvre ses yeux qu'il voit. C'est ce qu'il faut faire, il faut intercéder et vous verrez que ça vaut vraiment la peine. Alors Dieu a dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en toi, c'est la décision de Dieu. C'est une grande bénédiction que nous avons déjà méditée, j'arrive plus loin. Alors nous allons voir ceci. Dieu a donné à Abraham un commandement afin d'accomplir pour lui des promesses. Et c'est une remarque que j'ai faite dans la Bible, c'est que Dieu nous a fait des promesses. Vous y croyez aux promesses de Dieu? Et savez-vous que toutes les promesses sont plus ou moins liées à un commandement? Évidemment réfléchi. Regardez par exemple, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il y a la promesse, mais le commandement, c'est de croire. Est-ce que vous comprenez? Alors, Dieu a fait des promesses à Abraham, mais il a donné un commandement. Le voici. Regardez Genèse 18, 19. « Car je l'ai choisi, c'est-à-dire j'ai choisi Abraham, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant le droit et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. » Oui, Dieu voulait accomplir ses promesses, mais Abraham avait un commandement, c'est-à-dire qu'il devait ordonner à ses fils et à sa maison après lui de garder la parole de Dieu. Et oui, c'est tout ce que je peux faire avec mes enfants, mes petits-enfants, leur ordonner de garder la parole de Dieu. Voilà, Dieu a dit ça, je t'ordonne de le faire. Maintenant, il est libre, l'enfant, de le faire ou de ne pas le faire. Vous avez remarqué? Certains le font, pas d'autres. Je suis pourri à voir ce coup-ci. Hein. Voilà, alors quelles sont ces promesses que Dieu a faites à Abraham? Il y en a plusieurs. D'abord, de bénir toutes les familles. Donc c'est nous, c'est vous, c'est toi, c'est moi. Ensuite, de donner à Abraham une terre promise, la terre d'Israël. Et pour nous, c'est le royaume de Dieu. Ensuite, de lui donner un fils, une mission impossible. Il avait 100 ans, sa femme avait 90 ans. Elle n'était plus en état d'avoir des enfants. Et lorsqu'un ange a annoncé la promesse, elle a dit, aurais-je encore des désirs? Vous vous rendez compte, cette mamie qui disait ça. Et oui, et pourtant, c'était ce que Dieu avait promis. Donc c'était impossible. Mais le fils est arrivé. Le fils est arrivé. Et il n'y a rien d'étonnant de la part de l'Éternel. Est-ce que vous le savez cela? Tout est possible à Dieu. Il n'y a rien qui puisse nous étonner de sa part. Alors en terminant, il faut que nous y arrivions. Dans son amour et sa sagesse, le Seigneur a prévu de sauver nos enfants. Alléluia. Vous entendez les enfants? Le Seigneur a prévu de vous sauver. Ne l'oubliez jamais. Ensuite, pour cela, nous avons la mission d'être auprès d'eux des témoins du Seigneur. Décidez d'être vrai témoin du Seigneur, pour parler à vos enfants de ce Seigneur Jésus, de son œuvre qu'il a accomplie, des miracles, des prodiges qu'il y a dans la Bible. Dites-le leur. Alors je vous dis, soyons fidèles à notre mission. Et je vous dis simplement que c'était le salut des enfants. Et j'ajoute, soyez bénis. Et je vous le dis de tout mon cœur, soyez bénis. Que Dieu vous accorde sa grâce.